Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Voici le siège où se tiendra le futur voyageur dans le temps. En face de lui se trouvent les commandes. Nous allons imaginer que ce cigare représente le voyageur dans le temps. Juste en face de lui, il y a le levier qui contrôle le mouvement. Une pression en avant et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé.
Ça peut pas faire de mal.
Naturellement, cette expérience ne peut être réalisée qu'une seule fois.
Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de vous attirer des ennuis ?
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée ? Peut-il changer le monde de demain ?
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. En 1894, je me trouvais à court d'argent. Ce fut une période difficile. Jane et moi attendions mon divorce et nous étions partis vivre à Londres en raison de sa santé qui était délicate, comme d'ailleurs elle était la mienne. Et nous nous étions installés dans une chambre meublée à Seven Oaks, sous le regard suspicieux d'une logeuse qui ne tarda pas à découvrir que nous vivions dans le péché, mais qui ne pouvait pas se permettre de nous accuser sans avouer qu'elle avait lu en cachette ma correspondance et qui donc se contenta de nous rendre la vie difficile. Telle était la situation quand j'ai déterré une histoire ébauchée dans le passé, Les Argonautes de l'espace. Pas très accrocheur comme titre, hein. Je l'ai complètement réécrite et renommée La machine à explorer le temps. Par chance, l'un de mes anciens protecteurs fut nommé rédacteur en chef d'un nouveau magazine et il prit mon manuscrit comme feuilleton. Il m'en offrit 100 livres. 100 livres. C'était pour nous une fortune. Et quand cette histoire fut publiée sous forme de livre, elle connut un succès considérable. Je me rappelle qu'un magazine avait dit « Monsieur H.G. Wells est un génie ». Pour un premier roman, on ne pouvait pas rêver mieux, n'est-ce pas ? Cette confidence du grand romancier britannique Herbert George Wells est extraite de la biographie que lui consacre l'un de ses admirateurs actuels les plus inattendus, le satiriste anglais David Lodge. Dans son livre « Un homme de tempérament », l'auteur rend hommage à celui qu'il admire et qu'il aurait aimé être. Un penseur engagé et visionnaire, un écrivain au talent prophétique, un grand amoureux des femmes aussi, qui a défié la société victorienne en prônant l'amour libre. Né en 1866 dans la banlieue sud de Londres, mort en 1946, à la veille de ses 80 ans, H.G. Wells est une personnalité hors norme. Adolescent, il doit subvenir aux besoins de sa famille et devient apprenti chez un marchand de tissus. C'est là qu'il découvre l'inégalité sociale et connaissent ses convictions socialistes. Après la séparation de ses parents, il vit auprès de sa mère, gouvernante, dans une riche maison de campagne où le jeune Wells découvre les trésors de la bibliothèque. Il se passionne pour la République de Platon et s'initie au progrès de la science. David Lodge dira de lui « H.G. Wells est un autodidacte qui a voulu changer le monde ». Mais à défaut de changer le monde, son œuvre offre surtout une projection de ce que pourraient devenir les choix politiques de son époque. Que deviendront le socialisme et la lutte des classes dans les siècles futurs ? Où la théorie de l'évolution, découverte 20 ans plus tôt par Darwin, mènera-t-elle l'homme ? Ce soir, ouvrons le premier récit d'anticipation qui a fait la célébrité et la fortune de l'écrivain. Héritier du fantastique d'Edgar Poe, grand lecteur de son homologue français Jules Verne, Wells est aujourd'hui considéré comme le père de la science-fiction, même si le terme de science-fiction n'apparaît qu'en 1929 dans une revue spécialisée. Mais revenons à l'année 1895 et embarquons dans cette fabuleuse machine à explorer le temps. Tout commence comme dans un roman policier d'Arthur Conan Doyle où Sherlock Holmes aurait laissé sa place à un savant fou. C'est le soir après dîner. Dans un salon cossu de Londres, un groupe d'amis boit du champagne, fume le cigare et disserte au coin du feu. Autour du narrateur se réunissent, comme chaque semaine, les habitués du jeudi. Philby, le sceptique, le docteur et le psychologue, le provincial et le très jeune homme. La soirée avance, le débat s'anime. L'explorateur du temps, car c'est ainsi que pour plus de commodité nous l'appellerons, nous exposait un mystérieux problème. Ses yeux gris et vifs étincelaient et son visage habituellement pâle était rouge et animé. Dans la cheminée, la flamme brûlait joyeusement et la lumière douce des lampes à incandescence en forme de lys d'argent se reflétait dans les bulles qui montaient brillantes dans nos verres. Nos fauteuils dessinés d'après ces modèles nous embrassaient et nous caressaient au lieu de se soumettre à regret à nos séances. Il régnait cette voluptueuse atmosphère d'après-dîner où les pensées vagabondent gracieusement. « Messieurs, renchérit l'explorateur du temps, c'est là justement le germe de ma grande découverte. Vous avez tort de dire que nous ne pouvons pas nous mouvoir dans tous les sens du temps. Par exemple, si je me rappelle très vivement quelque incident, je retourne au moment où il s'est produit. Je suis distrait, j'ai l'esprit absent, comme vous dites. Je fais un saut en arrière pendant un moment. Pourquoi l'homme ne pourrait-il pas espérer que finalement il lui sera permis d'arrêter ou d'accélérer son impulsion au long de la dimension du temps, ou même de retourner et de voyager dans l'autre sens ? Vous pouvez par toutes sortes d'arguments démontrer que le blanc est noir et que le noir est blanc, dit Philby, mais vous ne me convaincrez jamais. Peut-être bien, dit l'explorateur du temps, mais vous commencez à voir maintenant quel fut l'objet de mes investigations. Il y a longtemps que j'avais une vague idée d'une machine. Pour voyager à travers le temps, s'exclama le très jeune homme, qui voyagera indifféremment dans toutes les directions de l'espace et du temps, au gré de celui qui la dirige. Philby se contenta de rire. « Mais j'en ai la vérification expérimentale, dit l'explorateur du temps. Voilà qui serait fameusement commode. On pourrait apprendre le grec des lèvres même d'Homère et de Platon, dit le très jeune homme.
Dans ce cas, il vous ferait coller certainement à votre premier examen, rétorqua le docteur.
C'est là qu'est l'avenir, renchérit le provincial. Pensez donc, on pourrait placer tout son argent, le laisser s'accumuler avec des intérêts et se lancer en avant.
À la découverte d'une société édifiée sur une base strictement communiste, dis-je.
Eh bien, faites-nous voir votre expérience, dit le psychologue, bien que tout cela ne soit qu'une farce.
L'explorateur du temps nous regarda tour à tour en souriant. Puis, toujours avec un léger sourire et les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, il sortit lentement du salon et nous entendîmes ses pantoufles traîner dans le long passage qui conduisait à son laboratoire.
Restons en bonne société et attendons le retour du savant. L'atmosphère devient soudain plus inquiétante. On pense à l'univers fantastique des histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Réunis autour d'une table, on dirait que nos acolytes se préparent à un loisir très à la mode dans cette fin du XIXe siècle, une séance de spiritisme. Retrouvons le narrateur et ses amis à la fois curieux et inquiets. L'objet que l'explorateur du temps tenait à la main était une espèce de mécanique en métal brillant, à peine plus grande qu'une petite horloge, et très délicatement faite. Certaines parties étaient en ivoire, d'autres en une substance cristalline et transparente.
« Ce petit objet n'est qu'une maquette, » dit l'explorateur du temps en joignant ses mains au-dessus de l'appareil. « J'ai mis 2 ans à le faire. C'est le projet que j'ai fait d'une machine à voyager dans le temps. Vous remarquerez qu'elle a l'air singulièrement louche et que cette barre scintillante a un aspect bizarre, en quelque sorte irréel. » Il vous faut maintenant comprendre nettement que ce levier, si on appuie dessus, envoie la machine glisser dans le futur et que cet autre renverse le mouvement. Cette selle représente le siège de l'explorateur du temps. Tout à l'heure, je presserai le levier et la machine partira. Elle s'évanouira, passera dans les temps futurs et ne réapparaîtra pas. Regardez-la bien. Il y eut un silence d'une minute peut-être. Le psychologue fut sur le point de parler, mais il se ravisa.
Alors l'explorateur du temps avança son doigt vers le levier.
« Non, » dit-il tout à coup, « donnez-moi votre main. »
Et se tournant vers le psychologue, il lui prit la main et lui dit d'étendre l'index, de sorte que ce fut le psychologue qui lui-même mit en route le modèle. Nous vîmes tous le levier s'abaisser. Je suis absolument sûr qu'il n'y eut aucune supercherie. On entendit un petit sifflement et la flamme de la lampe fila. Une des bougies de la cheminée s'éteignit et la petite machine tout à coup oscilla, tourna sur elle-même, devint indistincte, apparut comme un fantôme pendant une seconde peut-être, comme un tourbillon de cuivre scintillant faiblement, puis elle disparut. Sur la table, il ne restait plus que la lampe. Pendant un moment, chacun resta silencieux. Puis Philby jura. « Vous prétendez que votre machine voyage dans l'avenir » dit-il.
« Certainement, » répondit notre ami en se baissant vers la cheminée pour enflammer une allumette. Puis il se retourna vers Philby en allumant sa pipe. « Bien plus. J'ai ici, » dit-il en indiquant son laboratoire, « une grande machine presque terminée. Et quand elle sera complètement montée, j'ai l'intention de faire moi-même avec elle un petit voyage. »
Nous restâmes assis, les yeux fixés sur la table vide, jusqu'à ce que notre ami reprenne.
« Voulez-vous voir la machine elle-même ?»
En disant cela, il prit une lampe et nous entraîna au long du corridor, exposé au courant d'air qui menait à son laboratoire. Je me rappelle très vivement la lumière tremblotante, la silhouette de sa grosse tête étrange, la danse des ombres, notre défilé à sa suite, tous ahuris mais incrédules. Et comment aussi nous aperçûmes dans le laboratoire une machine beaucoup plus grande que le petit mécanisme que nous avions vu disparaître sous nos yeux. Elle comprenait des parties de nickel, d'ivoire, d'autres avaient été limées ou sciées dans le cristal de roche. Des barres torses semblaient être de quartz.
« Voyons, dit le docteur, parlez-nous tout à fait sérieusement. » Ou bien n'est-ce qu'un tour de passe-passe comme ce fantôme que vous nous avez fait voir à Noël ?
J'espère bien, dit notre ami en élevant la lampe, explorer le temps sur cette machine. Est-ce clair ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie.
Le jeudi suivant, le cercle se réunit à nouveau. Mais l'explorateur du temps est étrangement absent.
Enfin, je trouve sa conduite vraiment cavalière.
Il a eu un empêchement, voilà tout.
Non, je ne comprends pas qu'il nous fasse perdre notre temps. S'il ne vient pas, j'ai autre chose à faire de plus important que de l'attendre.
Depuis combien de temps est-il parti ?
Je ne saurais le dire au juste, monsieur. Plusieurs jours. Je le voyais très peu ces jours-ci. Il ne quittait jamais son laboratoire. Quant à ses repas, c'est à peine s'il y touchait.
L'heure du dîner approche, les convives s'apprêtent à passer à table, lorsque le savant fait une apparition fort inhabituelle, le costume déchiré, le visage ensanglanté, les pieds nus, il demande à ses convives de l'excuser, le temps de se changer. De retour parmi ses amis, il entreprend ensuite un fascinant récit.
Je suppose que celui qui va se suicider et qui tient contre son crâne un pistolet doit éprouver le même sentiment que j'éprouvais alors. J'ai pris dans une main le levier de mise en marche et dans l'autre le levier d'arrêt. J'appuyais sur le premier et presque immédiatement sur le second. Je crus chanceler, puis j'eus une sensation de chute comme dans un cauchemar. Je respirais, serrais les dents, empoignais des deux mains le levier de mise en train et partis d'un seul coup. Le laboratoire devint brumeux, puis sombre. La servante entra et se dirigea sans paraître me voir vers la porte donnant sur le jardin. Je suppose qu'il lui fallut une minute ou deux pour traverser la pièce, mais il me sembla qu'elle était lancée d'une porte à l'autre comme une fusée. J'appuyai sur le levier jusqu'à sa position extrême. La nuit vint comme on éteint une lampe. Puis le jour, puis une nuit encore, puis des jours et des nuits de plus en plus précipités. Un murmure vertigineux emplissait mes oreilles. Une mystérieuse confusion descendait sur mon esprit. Pendant cette course, le soleil bondissant devint une traînée de feu, un arc lumineux dans l'espace. La lune, une bande ondoyante et plus faible. Et je ne voyais plus rien des étoiles, sinon de temps en temps un cercle brillant qui tremblotait. Le paysage était brumeux et vague. J'étais toujours au flanc de la colline sur laquelle est bâtie cette maison et la pente s'élevait au-dessus de moi, grise et confuse. Je vis des arbres croître et changer comme des bouffées de vapeur, tantôt roux, tantôt verts. Ils croissaient, s'étendaient, se brisaient et disparaissaient. Je vis d'immenses édifices s'élever, vagues et splendides, et passer comme des rêves. Toute la surface de la terre semblait changer, ondoyant et s'évanouissant sous mes yeux. Les petites aiguilles sur les cadrans qui enregistraient ma vitesse couraient de plus en plus vite. Bientôt, je remarquais que le cercle lumineux du soleil montait et descendait d'un solstice à l'autre en moins d'une minute et que par conséquent, j'allais à une vitesse de plus d'une année par minute. Les sensations désagréables du départ se fondirent bientôt en une sorte d'euphorie nerveuse. Je me lançais dans l'avenir avec une sorte de folie croissante. Quels étranges développements de l'humanité, quelles merveilleuses avances sur notre civilisation rudimentaire n'allais-je pas apercevoir ? J'étais pour ainsi dire désintégré. Je glissais comme un éther à travers les interstices des substances interposées Mais même à travers le voile qui noyait les choses, la terre me semblait très belle.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Lying in my bed, I hear the clock tick, and I think of you, caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, you're calling to me, and I can't hear a word you said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you lost, you can look, you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after my picture fades, darkness has turned to grey, watching through windows, you are wondering if I'm okay.
Depuis plusieurs semaines, votre comportement est bizarre. Je ne m'en irai pas d'ici avant de savoir ce qui vous tracasse.
Écoutez, David, j'apprécie votre geste, mais je désire simplement rester seul, c'est tout.
Pourquoi cette passion soudaine pour le temps?
Très bien, si vous insistez, je n'aime pas beaucoup l'époque à laquelle nous vivons. Il semble que l'on ne meure pas assez vite de nos jours. Alors on fait appel à la science pour trouver le meilleur moyen de dépeupler la Terre.
Mais je suis d'accord avec vous. Et vous avez raison, Georges. Mais c'est notre époque, il faut en tirer le meilleur parti possible.
Si ça vous amuse, pas moi.
Très bien. Allez donc vous promener sur votre machine. Et qu'est-ce que vous deviendrez? Un grec? Un romain? Un pharaon d'Égypte?
Je préfère le futur.
Après un atterrissage chaotique dont il sort indemne, le voyageur fait enfin la connaissance de l'humanité future. Nous voici en l'an 802-1701. Après s'être posé dans un beau jardin, près d'une colossale statue en forme de sphinx, l'explorateur est accueilli par une étrange population composée de petits êtres diaphanes à la beauté enfantine. Dans le passage suivant, H.G. Wells s'inspire de l'une de ses premières nouvelles, intitulée « La porte dans le mur », où un promeneur découvre par hasard l'entrée du jardin d'Éden. Mais ici, c'est d'abord un sentiment de peur panique qui submerge notre aventurier. Autour de moi, de grands édifices s'élevaient clairs et distincts, brillants sous l'éclat de l'averse récente. Je me sentais comme nu dans un monde étrange. J'éprouvais ce que peut-être ressent l'oiseau dans l'air clair lorsqu'il sait que le vautour plane et va s'abattre sur lui. Ma peur devenait de la frénésie. Je respirais fortement, serrais les dents et me raccrochais à ma machine. Je restais là, haletant sourdement, prêt à repartir. Mais avec l'espoir d'une prompte retraite, le courage me revint. Je considérais plus curieusement et avec moins de crainte ce monde d'un avenir éloigné. Dans une fenêtre ronde, très haut dans le mur du plus proche édifice, je vis un groupe d'êtres revêtus de riches et souples robes. Ils m'avaient vu car leur visage était tourné vers moi. J'entendis des voix qui s'approchaient. Venant à travers les massifs qui entouraient le sphinx blanc, je voyais les têtes et les épaules d'hommes qui couraient. L'un d'eux déboucha d'un sentier qui menait droit à la petite pelouse sur laquelle je me trouvais avec ma machine. C'était une délicate créature, haute d'environ 1m20, vêtue d'une tunique de pourpre retenue à la taille par une ceinture de cuir. Des sandales et des brodequins recouvraient ses pieds. Ses jambes étaient nues depuis les genoux. Elle ne portait aucune coiffure. D'autres encore arrivèrent et j'eus bientôt autour de moi un groupe d'environ 8 ou 10 de ces êtres exquis. L'un d'eux fit un pas en avant, hésita, puis toucha ma main. Je sentis alors d'autres petits et tendres tentacules sur mon dos et mes épaules. Ils voulaient se rendre compte si j'étais bien réel. Il n'y avait rien d'alarmant à tout cela. Il y avait dans les manières de ces jolis petits êtres une gracieuse gentillesse, une certaine aisance puérile. J'essayai d'entamer la conversation. Je leur indiquai du doigt la machine, puis moi-même. Ensuite, me demandant un instant comment j'exprimerais l'idée de temps, je montrai du doigt le soleil. Aussitôt, un gracieux et joli petit être suivit mon geste et, à mon grand étonnement, imita le bruit du tonnerre. Un instant, je fus stupéfait. Une question s'était posée subitement à moi. Est-ce que ces êtres étaient fous ? Vous pouvez difficilement vous figurer comment cette idée me vint. Vous savez que j'ai toujours cru que les gens qui vivront en 802 000 et quelques nous auraient surpassés d'une façon incroyable en science, en art et en toutes choses. Et voilà que l'un d'eux me posait tout à coup une question qui le plaça au niveau intellectuel d'un enfant de 5 ans. L'un d'eux me demandait en fait si j'étais venu du soleil avec l'orage. Cela gâta l'opinion que je m'étais faite d'eux et fut fortement déçu. Pendant un moment, je crus que j'avais inutilement inventé la machine du temps. Empli de mélancolie, le savant médite sur l'état du monde qu'il vient de découvrir. Est-ce l'âge d'or ou le crépuscule de l'humanité ? L'explorateur observe les nouvelles mœurs de cette civilisation du futur. Logés dans de grands édifices collectifs, les individus prennent leur repas en commun, dans de grandes salles évoquant des banquets romains. La nourriture y est abondante et exclusivement végétarienne. Mais à côté de cette luxuriance, il note la présence de nombreux édifices en ruine qui lui inspirent un sentiment de désolation. L'humanité serait-elle parvenue à l'étape ultime du darwinisme et du socialisme ? Le progrès conduit-il nécessairement à une forme de décadence physiologique et sociologique ? Retrouvons notre héros submergé par ses réflexions sur l'évolution de l'homme et de la société, oscillant entre optimisme et pessimisme. Visionnaire, Wells prédit au passage le réchauffement de la planète, sans savoir qu'il est une conséquence de l'industrialisation de son époque. En avançant, j'étais attentif à toute impression qui eût pu, en quelque façon, m'expliquer la condition de splendeur ruinée dans laquelle je trouvais le monde. Car tout avait l'apparence de ruine. D'une terrasse où je me reposais un instant, je regardais dans toutes les directions et une soudaine pensée me vint. Nulle part, je n'aperçus de petites habitations. Apparemment, la maison familiale et peut-être la famille n'existaient plus. Ici et là, dans la verdure, s'élevaient des sortes de palais, mais la maison isolée et le cottage, qui donne une physionomie si caractéristique au paysage anglais, avaient disparu. « C'est le communisme », me dis-je. Et sur les talons de celle-là me vint une autre pensée. J'examinais la demi-douzaine de petits êtres qui me suivaient toujours. Alors je m'aperçus brusquement que tous avaient la même forme de costume, le même visage imberbe au teint délicat et la même mollesse des membres, comme de grandes fillettes. Tout était si étrange. Rien ne distinguait les sexes. Ces humains du futur étaient tous identiques. Je m'assis en haut d'une colline et contemplai le spectacle de notre vieux monde au soleil couchant de ce long jour. Ici et là s'élevaient quelques formes blanches ou argentées dans le jardin désolé de la terre. Nul haie, nul signe de propriété, nulle apparence d'agriculture. La terre entière était devenue un jardin. Le cours de la Tamise s'était transporté à environ 1 mille de ma position actuelle. Je crois vous avoir déjà dit combien la température de cet âge était plus élevée que la nôtre. Je ne puis m'en expliquer la cause. Peut-être le soleil était-il plus chaud ou la terre plus près du soleil. Quelle qu'en soit la raison, il est certain que le soleil était beaucoup plus chaud qu'il ne l'est actuellement. Je croyais être parvenu à l'époque du déclin du monde. Le crépuscule rougeâtre m'évoqua le crépuscule de l'humanité. Pour la première fois, je commençais à concevoir une conséquence bizarre de l'effort social où nous sommes actuellement engagés. Le vrai progrès civilisant qui assure de plus en plus le confort et diminue l'inquiétude de la vie était tranquillement arrivé à son point culminant. Ici, déjà, dans l'air, ni moucherons ni moustiques, sur le sol, ni mauvaises herbes ni fongosité, des papillons brillants voltigeaient de ci de là. L'idéal de la médecine préventive était atteint, les maladies avaient été exterminées. Je ne vis aucun indice de maladie quelconque pendant tout mon séjour. Des triomphes sociaux avaient été obtenus. Je voyais l'humanité hébergée en de splendides asiles, somptueusement vêtus. Et jusqu'ici, je n'avais trouvé personne qui fût occupé à un labeur quelconque. Nul signe, nulle part, de lutte, de contestation sociale ou économique. La boutique, la réclame, le trafic, tout le commerce qui constitue la vie de notre monde n'existait plus. Il était naturel que par cette soirée resplendissante, je saisisse avec empressement l'idée d'un paradis social. Je songeais à la délicatesse physique de ces gens, à leur manque d'intelligence, à ces ruines nombreuses et énormes, et cela confirma mon opinion d'une conquête parfaite de la nature par l'homme. Car après la lutte, vient la quiétude. L'humanité avait été forte, énergique et intelligente et avait employé toute son abondante vitalité à transformer les conditions dans lesquelles elle vivait. Celle-ci avait atteint sa parfaite harmonie. Ce fut le commencement de l'ultime et grande paix. L'énergie se porte alors vers l'art et l'érotisme et viennent ensuite la langueur et la décadence. S'orner de fleurs, chanter et danser au soleil, c'était tout ce qui restait de l'esprit artistique, rien de plus. Même cela devait à la fin faire place à une oisiveté satisfaite. Et je restais là, dans les ténèbres envahissantes, pensant avoir par cette simple explication résolu le problème du monde. Il se pouvait que les moyens que ce peuple avait imaginés pour restreindre l'accroissement de la population eussent trop bien réussi et que le nombre, au lieu de rester stationnaire, eût plutôt diminué. Cela eût expliqué l'abandon des ruines. Mon explication était très simple et suffisamment plausible, comme le sont, hélas, la plupart des théories erronées. Pressentant ces erreurs, l'explorateur découvre bientôt le revers de ce décor faussement idyllique. D'étranges détails attirent d'abord l'attention de notre savant. Au milieu de ce jardin terrestre, il observe la présence de nombreux puits, sombres et profonds, comme des cheminées d'aération. Il remarque ensuite que les Éloïs, le peuple naïf qu'il a rencontré, éprouvent une peur ancestrale de ces puits, ainsi que de l'obscurité des nuits sans lune. Un fait inattendu vient ensuite accélérer les événements. La machine à remonter le temps a disparu. Partant à sa recherche, l'explorateur s'aventure dans les ruines d'un édifice et tombe dans une étroite galerie souterraine. Avec une boîte d'allumettes pour seule arme, notre aventurier n'est pas au bout de ses surprises. À travers l'image d'un monde gangréné, H.G. Wells imagine à l'avenir les conséquences dramatiques de l'opposition des classes sociales. À cause du contraste de la lumière éblouissante du dehors, la galerie me parut tout d'abord impénétrablement obscure. J'y pénétrais en tâtonnant, car le brusque passage de la clarté à l'obscurité faisait voltiger devant mes yeux des taches de couleur. Tout à coup, je m'arrêtais, stupéfait. Une paire d'yeux lumineux m'observait dans les ténèbres. La vieille et instinctive terreur des bêtes sauvages me revint. Je serrai les poings et fixai fermement les yeux étincelants. Immédiatement, les yeux se détournèrent et quelque chose de blanc s'enfuit en me frôlant. C'était une petite forme bizarre, rappelant le singe, la tête renversée en arrière, avec, tombant sur les épaules, une sorte de longue chevelure blonde. Je pus remarquer qu'il était d'un blanc terne et qu'il avait de grands yeux étranges d'un gris rougeâtre. Je craquai une allumette et découvris, à demi obstruée par un pilier renversé, une de ces ouvertures rondes en forme de puits dont je vous ai dit déjà quelques mots. Est-ce que mon animal avait disparu par ce chemin ? Cela me fit frissonner. Cet être avait tellement l'air d'une araignée humaine. Je ne sais pas combien de temps je restais à regarder dans ce puits. Il me fallut un certain temps pour réussir à me persuader que ce que j'avais vu était quelque chose d'humain. Graduellement, la vérité se fit jour. L'homme n'était pas resté une espèce unique, mais il s'était différencié en deux animaux distincts. Et cet être blême, immonde, ténébreux que j'avais aperçu était aussi l'héritier des âges antérieurs. Évidemment, cette seconde espèce d'homme était souterraine, sous mes pieds par conséquent. La terre devait être fantastiquement creusée et percée de tunnels et de galeries, qui étaient la demeure de la race nouvelle. Quoi de plus naturel que de supposer que c'était là, dans ce monde souterrain, que se faisait tout le travail nécessaire au confort de la race du monde supérieur. Il me semblait clair comme le jour que l'extension graduelle des différences sociales entre le capitaliste et l'ouvrier avait été la clé de la situation. Sans doute cela vous paraîtra quelque peu grotesque, mais il y a dans notre époque actuelle des faits propres à suggérer cette théorie. Il y a à Londres, par exemple, le métropolitain, ainsi que des rues et des ateliers souterrains, et ils croissent et ils se multiplient. Évidemment, pensais-je, cette tendance s'est développée jusqu'à ce que l'industrie ait graduellement perdu son droit d'existence au soleil. Je veux dire qu'elle s'est étendue de plus en plus profondément en de vastes usines souterraines. Est-ce que, même maintenant, un ouvrier ne vit pas pratiquement retranché de la surface naturelle de la Terre ? En s'accroissant, cet abîme dut rendre de moins en moins fréquent cet échange de classe à classe, cette élévation par intermariage qui retarde la division de notre espèce, de sorte qu'à la fin, on eut, au-dessus du sol, les possédants, recherchant le plaisir et la beauté, et au-dessous du sol, les non-possédants, les ouvriers, s'adaptant d'une façon continue aux conditions de leur travail. Ainsi, les Héloïs en étaient venus à n'être que des futilités simplement jolies. Ils possédaient encore la terre parce que les Morlocks, car à propos c'était le nom qu'on donnait à ces créatures du sous-sol, en étaient arrivés à trouver intolérable la surface de la terre éclairée par le soleil. Les Morlocks leur faisaient leurs habits, concluai-je, et subvenaient à leurs besoins habituels, peut-être à cause de la survivance d'une vieille habitude de domestication. Le grand triomphe de l'humanité que j'avais rêvé n'était en réalité que la conclusion logique du système industriel d'aujourd'hui. Pendant des milliers de générations, l'homme avait chassé son frère de sa part de soleil. Et maintenant, ce frère réapparaissait, transformé et menaçant. Déjà, les Héloïs avaient commencé à réapprendre la vieille leçon. Ils refaisaient connaissance avec la peur. Quelle est cette peur qui terrorise les Héloïs ? Suivons notre explorateur qui, courageusement, s'engage un peu plus loin dans le labyrinthe souterrain. Bientôt, je ne pus plus sentir les parois. Et j'arrivais à un espace plus large. Je vis que j'étais entré dans une vaste caverne voûtée qui s'étendait dans les profondeurs au-delà de la portée de la flamme. De grandes formes, comme d'énormes machines, surgissaient des ténèbres et projetaient de fantastiques ombres noires dans lesquelles les Morlocks, comme de ternes spectres, s'abritaient de la lumière. L'atmosphère était lourde et étouffante, et de fades émanations de sang fraîchement répandues flottaient dans l'air. Un peu plus bas, vers le centre, j'aperçus une petite table de métal blanchâtre sur laquelle semblait être servi un repas. Les Morlocks, en tout cas, étaient carnivores. À ce moment-là même, je me rappelle m'être demandé quel grand animal pouvait avoir survécu pour fournir la grosse pièce saignante que je voyais. Tout cela était fort peu distinct, l'odeur suffocante, les êtres immondes aux aguets dans le noir et n'attendant que le retour de l'obscurité pour revenir sur moi. Alors l'allumette s'éteignit, me brûla les doigts et tomba, tache rouge rayant les ténèbres. Pendant que je demeurais là dans l'obscurité, une main toucha la mienne. Des doigts flasques me palpèrent la figure. Je m'imaginais entendre autour de moi les souffles d'une multitude de ces petits êtres. Je sentis des doigts essayer de s'emparer doucement de la boîte d'allumettes que j'avais à la main, pendant que d'autres, derrière moi, tiraient mes habits et les déchiraient. Je me mis, aussi fort que je pus, à pousser de grands cris. Ils s'écartèrent vivement, puis je les sentis s'approcher de nouveau. Je frissonnai violemment et me remis à pousser des sons bizarres. Je dois confesser que j'étais horriblement effrayé. Je me décidai à craquer une nouvelle allumette et à m'échapper, protégé par sa lueur. Je fis durer la lumière en enflammant une feuille de papier que je trouvais dans ma poche et j'opérai ma retraite vers l'étroit tunnel. Cette escalade me sembla interminable. Pendant les derniers 7 ou 8 mètres, une nausée mortelle me prit. J'eus la plus grande difficulté à ne pas lâcher prise. La tête me tournait et j'anticipais déjà les sensations d'une chute. Enfin, cependant, je parvins jusqu'en haut. Et en jambant la margelle, je m'échappais en chancelant hors des ruines jusqu'au soleil aveuglant. Là, je tombais la face contre terre. Puis je me rappelle Wina baisant mes mains et mes oreilles et les voix des autres Héloïs. Ensuite, pendant un temps, je perdis connaissance. Lorsqu'il se réveille, l'explorateur reconnaît une douce présence à ses côtés. Wina est une créature du peuple des Héloïs que notre savant, peu après son arrivée, a sauvée de la noyade. En retour, celle-ci lui voue un amour chaste et inconditionnel qui consiste surtout à le suivre partout et à lui caresser les oreilles. Il se promet de la protéger contre les Morlocks qui, la nuit venue, enlèvent les créatures les plus faibles. Glissons-nous auprès des amoureux qui se sont réfugiés dans la forêt. Au cœur de la nuit, notre savant poursuit sa réflexion et la civilisation du futur lui semble tout à coup en proie à une terrible régression, comme un retour vers d'autres âges barbares. Je fus heureux de voir que Wina dormait à son tour profondément. Je l'enveloppai soigneusement dans ma veste déchirée et m'assis auprès d'elle pour attendre le lever de la lune. La colline était tranquille et déserte, mais des ténèbres de la forêt venaient de temps à autre quelques bruits comme d'êtres vivants. Au-dessus de moi brillaient les étoiles car la nuit était très claire. La contemplation du ciel effaça soudain mes inquiétudes et tous les dangers de la vie terrestre. Je songeais aux astres, à leur incommensurable distance et à leur lente trajectoire du passé inconnu vers le futur inconnu. Je pensais au grand cycle processionnel que décrit le pôle de la Terre. 40 fois seulement s'était produite cette silencieuse révolution pendant toutes les années que j'avais traversées. Mais à présent, après des millions de révolutions, toutes les activités, toutes les traditions, les organisations compliquées, les nations, langages, littérature, aspirations, même le plus simple souvenir de l'homme tel que je le connaissais, avaient été balayés du monde. À la place de tout cela restaient ces êtres frêles qui avaient oublié leur origine et ces êtres livides qui m'épouvantaient. Je pensais alors à la grande peur qui séparait les deux espèces. Et pour la première fois, avec un frisson subit, je compris clairement d'où pouvait provenir la nourriture animale que j'avais vue. Mais c'était trop horrible. Je contemplais la petite Wina dormant auprès de moi, sa figure blanche de la pâleur des étoiles, et aussitôt je chassais cette pensée. Une faible éclaircie monta vers l'est, mince, effilée et blême. Puis vint l'aube, pâle d'abord, et puis bientôt rose et ardente. Je me levai et m'aperçus qu'un de mes pieds était enflé à la cheville et très douloureux. Je m'assis de nouveau, retirai mes chaussures et les lançai loin de moi, n'importe où. Alors je repensai à ce repas carnivore que j'avais vu. J'étais certain maintenant d'avoir deviné quel mets le composait, et au fond de mon cœur je m'apitoyais sur ce dernier et faible ruisseau du grand fleuve de l'humanité. Évidemment, à un certain moment du long passé de la décadence humaine, la nourriture des Morlocks était devenue rare. Peut-être s'était-il nourri de rats et autres vermines. Maintenant, l'homme est beaucoup moins délicat qu'autrefois pour sa nourriture, beaucoup moins que n'importe quel singe. Son préjugé contre la chair humaine n'est pas un instinct bien profondément enraciné. Ainsi donc, ces inhumains, enfants des hommes, à quoi bon me tourmenter? Ces Eloïs étaient simplement un bétail, que tels les fourmis, les morlocs gardaient et qu'ils dévoraient, à la nourriture duquel ils pourvoyaient eux-mêmes. Et il y avait là Wina, qui bientôt se réveillerait et gambaderait à nouveau à mes côtés. Je cherchais alors à me protéger contre l'horreur qui m'envahissait, en envisageant la chose comme une punition rigoureuse de l'égoïsme humain. L'homme s'était contenté de vivre dans le bien-être et les délices aux dépens du labeur d'autres hommes, et la nécessité, dans la plénitude des âges, s'était retournée contre lui. J'avais à ce moment-là des idées très vagues sur ce que j'allais faire. J'espérais me procurer quelques moyens de faire du feu afin d'avoir l'arme redoutable qu'était une torche, car rien, je le savais, ne serait plus efficace contre les Morlocks. Puis il me faudrait imaginer quelque expédient pour rompre les portes de bronze du piédestal du sphinx blanc. J'avais l'idée d'une sorte de bélier. J'étais persuadé que les Morlocks avaient caché ma machine à l'intérieur, car ils n'étaient pas assez forts pour la transporter bien loin. J'étais persuadé que si je pouvais ouvrir ces portes et tenir devant moi quelques flammes, je retrouverais la machine et pourrais m'échapper. Je résolus d'emmener Wina avec moi dans notre époque actuelle.
Qu'avez-vous fait? L'homme a souffert durant des millénaires pour bâtir, pour créer une civilisation que vous laissez tomber en poussière. Des millions d'années au cours desquels des hommes se sont sacrifiés pour un idéal. Et pourquoi? Pour vous permettre de vous amuser, de danser. C'est pitoyable.
Nous approchons de la fin du récit. Hélas, la suite des événements ne se déroule pas exactement selon ses plans. L'explorateur parvient seul et la mort dans l'âme à échapper aux Morlocks qui ont eu raison de la pauvre Wina. Lorsqu'il retrouve sa précieuse machine, notre héros se précipite pour la mettre en marche, mais au lieu de se diriger vers le passé, il fait un bond de plusieurs milliers d'années dans le futur. Voici les dernières visions qu'il rapporte de cet inquiétant voyage, un décor d'apocalypse. Car le vrai sujet de H.G. Wells est l'entropie, ce phénomène physique d'inversion où le système solaire à court d'énergie se repliera sur lui-même, signifiant la fin de la vie sur Terre. Ce passage est, selon David Lodge, le préféré de Wells, qui y voyait là, je cite, « le dernier vestige de la vie animale sur cette planète, l'évolution qui a fait machine arrière. » À la fin, un crépuscule continuel enveloppa la Terre. Le soleil rouge et très large s'arrêta, immobile à l'horizon, vaste dôme brillant d'un éclat terni et subissant parfois une extinction momentanée. La machine s'était arrêtée sur une grève en pente. La mer s'étendait nette et brillante à l'horizon contre le ciel blême. Il n'y avait ni vagues, ni écueils, ni brise. Seule une légère et huileuse ondulation s'élevait et s'abaissait pour montrer que la mer éternelle s'agitait encore et vivait. Je me sentis la tête oppressée. Et je remarquai que je respirais très vite. Je jugeai par là que l'air devait s'être considérablement raréfié. Il m'est impossible de vous exprimer la sensation d'abominable désolation qui enveloppait le monde. Très loin, en haut de la pente désolée, j'entendis un cri discordant et je vis une chose semblable à un immense papillon blanc s'envoler, voltiger dans le ciel et planant, disparaître enfin derrière quelques monticules. Ce cri fut si lugubre que je frissonnais et m'installais plus solidement sur la selle. Je continue mon voyage, m'arrêtant de temps à autre par grandes enjambées de milliers d'années ou plus, entraîné par le mystère du destin de la Terre, guettant avec une étrange fascination le soleil toujours plus large et plus morne dans le ciel d'Occident et la vie de la vieille Terre dans son déclin graduel. Enfin, à plus de 30 millions d'années d'ici, l'immense dôme rouge du soleil avait fini par occuper presque la dixième partie des cieux sombres. Là, je m'arrêtais encore, et la grève rougeâtre paraissait dénuée de vie. Elle était maintenant recouverte d'une couche blanche. Un froid piquant m'assaillit. De rares flocons blancs tombaient parfois en tourbillonnant. La mer était bordée de franges de glace, avec d'énormes glaçons qui voguaient au loin. Mais la vaste étendue de l'océan, tout rougeoyant sous l'éternel couchant, n'était pas encore gelée. Tout à coup, je remarquai que le contour occidental du soleil avait changé, qu'une concavité, qu'une baie apparaissait dans sa course. Pendant une minute, peut-être, je considérais, frappé de stupeur, ces ténèbres qui absorbaient la pâle clarté du jour, et je compris alors qu'une éclipse commençait. L'obscurité croissait rapidement. Un vent froid commença à souffler de l'est par rafales rafraîchissantes, et le vol des flocons s'épaissit. Du lointain de la mer s'approchèrent une ride légère et un murmure. Hors ces sons inanimés, le monde était plein de silence. Du silence ? Il est bien difficile d'exprimer ce calme qui pesait sur lui. Tous les bruits de l'humanité, le bêlement des troupeaux, le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, toute l'agitation qui fait l'arrière-plan de nos vies, tout cela n'existait plus. Comme les ténèbres s'épaississaient, les flocons tourbillonnants et dansant devant mes yeux devinrent plus abondants et le froid de l'air devint plus intense. À la fin, un par un, les sommets blancs des collines lointaines s'évanouirent dans l'obscurité. La brise se changea en un vent gémissant. Je vis l'ombre centrale de l'éclipse s'étendre vers moi. En un autre instant, seules les pâles étoiles furent visibles. Tout le reste fut plongé dans la plus grande obscurité. Le ciel devint absolument noir. Je frissonnais et une nausée mortelle m'envahit. Alors, comme un grand fer rouge, réapparut au ciel le contour du disque solaire. Tandis que j'étais là, mal à l'aise et étourdi, je vis de nouveau, contre le fond rougeâtre de la mer, l'objet qui remuait sur le sable blanc. Il n'y avait maintenant plus de méprise possible. C'était bien quelque chose d'animé. Une chose ronde, de la grosseur d'un ballon de football à peu près, ou peut-être un peu plus gros, avec des tentacules traînant par derrière, qui paraissaient noirs contre le bouillonnement rouge sang de la mer.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec Julie Garraud à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. La machine à explorer le temps de H.G. Wells est toujours disponible dans la traduction historique de Henri Durand d'Avray, publiée en 1899 aux éditions du Mercure de France. La biographie de David Lodge, un homme de tempérament, est rééditée aux éditions Rivage Poche. Bonne soirée et à la semaine prochaine.